La démarche d'aller au cinéma est une démarche de soumission joyeuse, c'est d'aller voir des gens plus grands que soi sur un écran à côté des sons qu'on peut pas entendre chez soi. Il n'y a qu'en voyant les films, c'est des films qu'on finit par comprendre qui on est.
Très très souvent, le hasard met en place la force même de la scène.
Alors on revient toujours aux expressions formidables de Godard. La télévision, le cinéma crée de la mémoire, la télévision crée de l'oubli.
Vous avez envie d'aller au cinéma, mais vous avez la flemme de lire le programme, et ben on est là, comme tous les mois, avec Chloé et Chloé pour vous décortiquer tout ça.
Et ben bonjour Erdiwa, bonjour Chloé et Chloé, on se retrouve pour Radio Pestel. Alors on avait dit que ce serait la dernière émission de la saison, mais peut-être pas, parce qu'on a un autre programme après celui-là, je crois.
Ouais, bonjour. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il reste 6 semaines cinématographiques avant la fermeture annuelle du Pestel. Le 18 août, et donc on a en fait 2 programmes de 3 semaines cinématographiques chaque. Et donc là, c'est le premier, et il y en aura effectivement tout fin juillet, un autre pour les 3 dernières
Génial.
Semaines.
Donc on fera sûrement une autre émission à ce moment-là, si on est tous dispo.
Ouais, si on n'est pas tous en vacances, voilà. C'est pas dit.
Ou sinon, ce sera sans Chloé, on sera peut-être que 2, ou alors on invitera Jean-Pierre, je ne sais pas, peut-être pour la dernière.
Ah, peut-être.
Ça peut être une idée. Mais du coup, voilà, ça va être une émission peut-être un peu plus courte, on verra, sauf si on déblatère pendant des heures encore, puisqu'on a, donc on a un peu moins de films que d'habitude, parce qu'il n'y a que 3 semaines. Et je vais commencer directement pour la première semaine.
Ouais.
Du 18 au 14 juillet, on a Une année italienne de. J'ai écrit en plus. Non, je ne sais plus. Laura Samani, pardon.
Mm-hmm.
The Christophers de Steven Soderbergh, que vous connaissez sûrement. Disclosure Day de Steven Spielberg, que vous
oui,
connaissez sûrement pas.
Un petit inconnu.
Personne ne connaît, je crois. Donc, ouais. Voilà, c'est le nouveau gros, gros film de Spielberg en mode SF, comme on a l'habitude de le voir.
Je crois qu'il n'est pas si gros, en fait.
Le film il dure 2h25 quand même.
Ouais, il est gros en longueur. Ouais.
Ouais. Non, mais oui, c'est. Enfin, j'ai l'impression que c'est un gros statement, quoi.
Je crois qu'ils ont. Ça, maintenant, Spielberg, il est passé en mode, ils s'en tapent.
Ouais. Ok, mais tu l'as vu ?
Non, mais c'est ce que les gens disent. Okay. Il n'a plus besoin de faire ses preuves, il s'en tape.
Mmh. Oui, il fait sa vie.
Ouais, moi j'ai l'impression que The Fableman, c'était déjà un petit peu le.
Ouais, mais c'était très autobiographique. Là.
Oui, non,
oui
mais
il aurait pu finir sur
c'est
The Fableman.
C'est ça que je veux dire. Donc, ouais. Oui, ça pourrait faire sens que là on soit sur une phase un petit peu où il fait ce qu'il veut, il s'en fout.
Là, en fait, il finit sa trilogie sur les extraterrestres avec Rencontre du troisième type, E.T.
Ouais, voilà. Oui, pourquoi pas.
Mais... Ah, moi j'ai attends.
Ouais,
bah, oui, moi aussi. J'en entends. Parler beaucoup et j'entends les 2 sons de cloche, donc vraiment je veux voir. De toute façon, je veux voir, c'est Spielberg quoi.
Ouais.
C'est peut-être le dernier.
Hein. Oh non.
Je dis pas ça parce qu'il va mourir.
Non, ça sonnait un peu comme ça, genre.
Non.
Bah, il va peut-être mourir comme tout le monde en fait.
Oui, bon, ouais, ça,
désolé.
D'accord. Mais...
On parle de canicule mais... ou.
Non, pas encore. Mais non, mais juste parce que sa carrière commence à.
Non, il est éternel.
Il pourrait décider d'arrêter,
mais. Ses films sont éternels. Lui, par contre.
Ouais. Moi, c'est vrai que je le vois un peu quand même comme un. Comment il s'appelle, Clint Eastwood.
Ouais, c'est
alors, il va jamais s'arrêter en fait.
À la différence que, a priori, que... Steven Spielberg a peut-être rencontré les extraterrestres, donc peut-être qu'il a la parade pour la vie éternelle, on ne sait pas.
Mmh. Écoute, ce qu'il nous raconte. On va faire une interview. Ouais. Oui.
Ah ouais, bah,
la prochaine
ça.
Fois, on l'invite sur Radio. Ouais, on lui pose la question directement.
Il vient au Pestel pour.
Évidemment,
c'est ça. En avant-première.
Je me suis toujours dit que ce serait marrant d'essayer d'inviter quelqu'un d'aussi connu, mais je pense que c'est.
Attends, l'apogée, c'était Omar Sy, s'il te plaît.
Mais c'est bien.
Bah oui. C'était il y a 10 ans. Mais je pense que c'est le nec plus ultra qu'on ait eu au Pestel.
Mais
peut-être.
C'est pas fini. L'histoire du Pestel va continuer.
C'est
bon, alors du coup, à la fin de cette semaine, on aura Toy Story 5 de Andrew Stanton et McKenna Harris.
Trop hâte aussi.
Ouais, carrément. D'ailleurs, il y a aussi Shrek 5 cette année.
Oui.
Donc ça fait 2 gros films d'animation, voilà, un Disney et un DreamWorks.
5.
Ouais, 5. C'est pas souvent les 5. Il n'y a que Fast and Furious qui a fait plus de 5 films.
Ouais. Et surtout, même
Star
avec,
Wars aussi. Star
avec
Wars.
Des acteurs morts, et ça, c'est quand même hyper fort.
Ah ouais ?
Bah, Fast and Furious.
Ah oui. Paul Walker, tout ça, oui.
Ils ont fait tourner un mec mort.
Avant l'IA, d'ailleurs.
Ouais, c'était hyper balèze.
Avant l'IA.
Ouais. Et à la fin de cette semaine, on a aussi une soirée court-métrage, le vendredi 10 à 21h, proposée comme chaque année par l'association VLAN.
Oui.
N'est-ce pas ?
Oui.
Voilà, ben à vous.
Ouais.
Moi, j'ai fini ma.
Je vais dire un petit mot sur Une année italienne que j'avais découvert en décembre dernier. Donc, j'ai eu le temps un peu d'oublier, mais je garde quand même une image assez chouette de ce film, qui est un film parfait pour l'été, qui est un coming of age, donc un film sur
sur le passage à l'âge adulte. Il a été réalisé par Laura Samani, comme tu disais, dont le premier film était Piccolo Corpo, qu'on avait passé au Pestel. Et donc là, Laura, alors c'est assez fou, j'ai découvert qu'elle avait adapté une nouvelle de Gianni Stuparic, qui a été écrit en 1929. Alors que quand on voit le film, il est plutôt proche de nous, parce que l'action se déroule en 2007 à Trieste, en Italie.
L'année de la tectonique.
N'est-ce pas ?
Ouais, mais c'est important de le noter. Je pense qu'il faut le noter, parce que dans le style vestimentaire, ça se ressent un peu.
Ouais, carrément. Et puis même, la ville est très, très présente dans le film. Enfin, y a beaucoup de scènes de rue, et donc Trieste est un personnage à part entière. Et puis surtout, il n'y a pas les smartphones. Alors que tu vois les lycéens maintenant, pas la même ambiance. En tout cas, voilà, on est embarqué dans cette période de lycée. On suit le personnage de Fred, qui a 17 ans, et qui est, elle, suédoise, et qui débarque en Italie, dans un lycée technique, où elle est littéralement la seule fille. Donc, je vous laisse imaginer le sort de bizutage au début, parce que c'est là, donc, la seule fille de sa classe. Et puis, finalement, elle se fait un groupe de potes. Elle intègre cette sorte de bande avec trois autres mecs. Et donc, bien sûr, ils se tournent un peu tous autour. Il y a ces histoires d'attirance, désir, rejet, répulsion, etc. Donc, c'est un casting, enfin, un film qui repose beaucoup sur son casting, qui est extrêmement bon. Beaucoup de choses passent par les silences, les regards. Enfin, bon, c'est un film d'été. Moi, je le trouve parfait. Et puis, c'est très joli, c'est touchant. Je me suis demandé si on ne pouvait pas parler du syndrome de la Schtroumpfette. Connaissez-vous le syndrome de la Schtroumpfette ?
Ça me dit quelque chose.
J'adore.
C'est de mettre une petite blonde au milieu d'un type, oui. une bande de mecs, un truc comme ça.
Bah, blonde ou brune, hein. Enfin, peu importe. En gros, le principe, c'est... C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, sur le syndrome de la Schtroumpfette, c'est vraiment de faire des films ou des histoires où, en gros, tous les personnages masculins ont vachement de développement, sont hyper complexes, etc. Et que la femme, elle joue juste le rôle de... la femme.
Ouais, de l'objet de désir, quoi.
Voilà. Un mais peu. Donc là, ça va parce que c'est pas tant le cas. Fred, donc le personnage féminin, est vraiment au centre. Et même si c'est les hommes qui lui tournent autour, bah, elle existe. Elle existe à travers la relation avec son père, à travers aussi bah, toutes ces histoires d'attirance, etc. Enfin bon, donc oui mais non. Ça pose vraiment la question de l'intégration, et ça c'est intéressant parce que la réelle parle aussi de sa, donc la réalisatrice parle aussi de sa propre expérience, parce qu'elle a vécu vaguement des choses similaires, et je trouve que ce sujet-là de l'intégration. De justement une femme parmi les hommes, mais d'une Suédoise parmi les Italiens, et de l'Italie par rapport à la Slovénie. Enfin bon, il y a plein de trucs sur la cohabitation et sur l'intégration qui sont intéressantes dans ce film. Donc voilà, je recommande, vous passerez un bon moment, sachant que c'est l'Italie et que c'est bien joué, etc. etc. Donc voyez-le et puis on en reparlera.
Est-ce qu'il fait chaud dans le film ?
Évidemment.
Mais c'est à Trieste. Hein. Ouais. C'est à Trieste. Ils font pas du patin à glace, visiblement.
Et tu vois, je pensais qu'il y aurait une piste sociale qui serait creusée, parce que si je me souviens bien, le père donc de la personne, du personnage principal, est plutôt dans un poste de cadre dans l'usine où travaillent la majorité des hommes et des femmes du reste des parents de la classe de Fred. Bref, et cette piste n'est pas du tout explorée. Donc ça m'a un peu surprise, mais bon, pourquoi pas. En fait, c'est plus un film sur justement les histoires de désir, d'amour, etc.
Que sur un film de classe sociale.
Exactement. C'est pas une piste qui a été creusée.
Ok. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu que le début, parce que c'est ma spécialité. Et effectivement, c'est une des premières choses qu'on sait, c'est qu'on apprend vite que son père a un poste haut placé dans l'usine. Et... Bref, voilà. C'est voilà. Tout ce que je peux vous dire sur
pas
le
de
film.
Spoil. Voilà, moi, pas de spoil. Moi, j'en sais plus, mais je ne vous dirai pas. En tout cas, moi, ça m'a replongée dans ces ambiances adolescentes d'hormones qui frétillent, tout ça. Vous voyez les hormones frétiller,
ouais, c'est tout l'été, là, ça frétille.
Exactement.
Ben moi, j'enchaîne sur un film qui ne parle pas du tout d'hormones frétillantes, donc The Christophers, avec un accent anglais au top, de Steven Soderbergh. Donc, évidemment, vous ne savez pas qui est Steven Soderbergh.
Personne ne sait.
Personne ne sait. Alors, si vous ne savez pas, en fait, il a quand même une filmographie notable qui est assez hétéroclite. C'est ça, quand même, sa grande particularité à Steven, un autre Steven, après Spielberg, Soderbergh. Oui. Bref. Et il a aussi une autre particularité, c'est qu'il a gagné la Palme d'Or en 89, et je pars avec Sexe, Mensonges et Vidéo, et je crois que c'est le plus jeune palmé il me semble. Si je dis pas une connerie, peut-être qu'il y a
un des plus jeunes,
parce que je crois qu'il y a Mac Malbaf qui a eu la fille de l'autre qui a eu une palme d'or, mais je dis peut-être des conneries, oubliez cette histoire. Bref, donc il a fait plusieurs films très connus, notamment Ocean Eleven, Twelve, enfin il y en a eu plusieurs, Trafic, Présence, que je n'avais pas vu, Logan Lucky, Ma vie avec Liberace, que j'avais adoré, qui était un film très 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 chouette, Magic Mike. Évidemment, tout le monde se rappelle de Magic Mike. Non, moi, c'est un des films préférés. J'adore. C'est des mecs qui font des striptease. C'est génial. Ah. Regardez Magic Mike. Trafic. Et évidemment, le grand Erin Brockovich.
Ah, donc, vous voyez, oui.
Bah, oui. Donc, en fait, Soderbergh, c'est vraiment quelqu'un. Et le Che. Il a fait une adaptation du Che aussi, quoi. Donc, il a vraiment fait énormément de choses. Et là, en fait, on est sur un Soderbergh qui a compris, lui aussi, qu'en fait, il était peut-être un peu vieux pour faire des gros blockbusters avec tout le casting américain. Donc, il s'est contenté de faire un petit film un peu plus en huis clos. J'ai également appris, parce que j'ai mené mon enquête très, très loin, qu'il habitait en Angleterre.
Adi.
Non, pas très loin. On va l'inviter aussi.
C'est ça.
Avec tous les Steven, avec Spielberg, on a quelqu'un qui est à Londres. Il est moins loin qu'aux États-Unis.
Ah, bah voilà.
Donc, c'est ce qui lui est. Voilà. Ben, en fait, c'est un peu.
On va le mettre dans le train Londres-Di.
C'est ça. Direct. Nickel, direct. Il y en a un de nuit. et en fait, ça a une importance parce que ce film est tourné en Angleterre avec des grands acteurs anglais. Mmh. Donc, notamment Ian McKellen.
Bien sûr.
Énorme acteur qui a 84 ans et qui est le Gandalf.
De Peter Jackson.
C'est ça, de Peter Jackson, mais qui est surtout un énorme acteur shakespearien. Ça, je ne le sais pas, parce que je n'ai jamais vu de pièce de Shakespeare avec lui. Et Michaela Cole, qui est la très grande productrice, scénariste, réalisatrice et actrice de la série I May Destroy You.
Oui, je vois.
Voilà. Bref, et c'est une actrice remarquable, une auteure remarquable. Et en fait, c'est très intéressant ce choix de casting. À votre avis, pourquoi? Parce que c'est un choc de génération, évidemment. Donc, il a placé cette jeune femme noire, précisons-le, avec ce grand acteur shakespearien, blanc comme des fesses d'anglais. Et bref, et c'est très important dans le film parce que c'est ce huis clos qui parle en fait de leur vision de l'art. Entre cette génération. Donc, ça raconte l'histoire d'un vieil. Artiste renommé anglais qui a eu une très grande renommée et qui est un peu tombé en désuétude et qui a gagné énormément d'argent et de pognon avec son art et dont les enfants en fait aimeraient qu'il finisse une série qu'il a entamée il y a des années de ça qui s'appelait The Christophers où il a peint son amant et qu'il a jamais fini, qu'il a jamais vendu. Et en fait, les enfants de ce grand artiste n'ont évidemment qu'une envie, c'est qu'ils finissent cette série, en tout cas qu'ils la mettent en vente pour le fric. Mmh. Donc, ils embauchent Michaela, dont j'ai oublié le nom dans le film, mais c'est pas très grave, qui est une grande faussaire, pour qu'elle dupe Yann, afin de finir cette série. Et de se faire un max de thunes, en fait. Et là, en fait, on est sur un huis clos, un jeu de dupes. C'est extrêmement bien écrit, c'est très surprenant. Ça interroge énormément la notion d'auteurisme. Et en fait, là, on sent Soderbergh à la fin d'une carrière où il commence à s'interroger, comme ils font tous, comme Almodovar, sur qu'est-ce que c'est l'art, qu'est-ce que c'est. Mais de manière très, très fine.
Ah, j'espère qu'il est plus fin qu'Almodovar.
Ah oui, bien sûr. Il est fin et il parle évidemment de la commercialisation de l'art et autres. Et en fait, il a... petit clin d'œil qui va plaire énormément à Jean-Pierre, mais en fait, il s'inspire énormément d'un grand auteur américain qui s'appelle Mankiewicz et qui a fait lui aussi son film anglais avec Le Limier, il y a des années, qui est un énorme film de dupes, justement, sur deux personnages qui se dupent mutuellement et avec des ressorts scénaristiques assez incroyables.
C'est bon, je vais le voir.
Un énorme classique. Et donc là, c'est vraiment une référence qu'a Soderbergh. Donc, en fait, je vous conseille ce film qui fait plutôt du bien. C'est vraiment plutôt un petit film, mais assez jubilatoire, quoi. Voilà, c'est comme ça que je résumerai ce film. Voilà pour The Christopher.
Elle est forte, hein.
Voilà, plus modeste, je pense, en termes de scénario et de coût de production que l'autre Steven, dont on a parlé un peu plus haut. Quoi.
Voilà. Peut-être tu peux rappeler la date de la soirée court-métrage, surtout, parce que c'est toujours des grands succès et c'est trop bien.
Je pense que les gens, ils sont attaqués, ils vont venir, mais c'est le vendredi 10 à 21h. Voilà, soirée court-métrage ça va durer 2 heures à peu près, c'est écrit. Mm-hmm. Donc voilà, on va nous régaler, quoi.
J'ai hâte. J'ai lu vite fait les titres et les synopsis. En fait, c'est toujours un équilibre à trouver entre des courts-métrages un peu longs, d'autres un peu courts, de l'animation, du docu, de la fiction. Enfin, vous allez voir, ça va être un chouette programme.
C'est patchwork. Ouais. Un peu.
Si tu veux.
Elle n'est pas emballée.
J'aime bien ce terme, patchwork.
Ah voilà, merci.
Ouais. C'est un peu vieillot comme ça, mais c'est pas grave.
Oui, bah oui, c'était le but. Bah,
on imagine une tapisserie avec plein de petits bouts de tissu.
Exactement.
Voilà, mais c'est ça.
Des chemises flanelles, voilà, tout ça. Alors, ce sera tout.
Oui.
Pour cette première semaine, très bien. Deuxième semaine, du 15 au 21 juillet, on a L'illusion de Yakushima de Naomi Kawase. Film japon-français, franco-japonais plutôt. Japon-français. Ensuite, on a Ulysse de Laetitia Masson, et ce n'est donc pas la traduction de Odyssée de Christopher Nolan.
Enfin, moi, j'ai cru que c'était ça. Ouais. Chloé m'a fait une énorme déception.
Ouais. Je pensais vraiment que c'était ça, mais il va sûrement passer dans le programme
oui,
d'après.
Ouais, il n'est pas encore sorti.
Si vous l'attendez.
Non,
il sort au début juillet.
Oui, voilà.
Donc, ce sera pour août, probablement. Et donc Ulysse de Laetitia Masson, un film français avec Élodie Boucher. Ensuite, on a Les Caprices de l'enfant roi de Michel Leclerc, avec Artus de retour, et Franck Dubosc aussi. Et Scary Movie de... Alors, il y a écrit Henri Selick sur le programme du Pestel, et c'est faux. C'est totalement faux. Et du coup, j'ai trouvé le nom, bien sûr. Et c'est Michael Tidz.
Non, mais voilà. Henri Selick, c'est parce qu'il est resté sur James et la grosse pêche.
Je pense que c'est ça.
Jean-Pierre.
Voilà.
Ouais. Ouais, je dis Jean-Pierre, mais en même temps, j'ai relu le programme et j'ai pas vu la coquille.
Donc, Scary Movie. Alors,
c'est le combien, tiens ?
C'est le sixième, j'allais dire justement.
Donc,
parce que
ils ont dépassé Toy Story.
Ouais, tout à fait.
Bravo.
Voilà. Après, on jugera de est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un Scary Movie 6 autant qu'il y avait besoin d'un Toy Story 5, je ne sais pas, on verra. Mais donc, c'est une comédie horrifique pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une parodie de films d'horreur, quoi. Et on a enfin une autre soirée de court-métrage avec le best-of des 10 dernières années d'animation des studios drômois, avec voilà, plein de films d'animation made in Drôme.
Ce n'est pas une soirée, hein, c'est une après-midi.
Ah, pardon, mais c'est vrai que c'est à 16h30.
Après. Voilà.
Mais c'est vrai que pour moi, les événements, souvent, c'est le soir. Mais là, non, en effet, c'est mercredi 15 à 16h30. Voilà.
Et donc, surtout, c'est pas bien précisé, mais je peux parler de ça direct.
Vas-y,
comme
vas-y.
Ça. En fait, c'est pas précisé. Je pense que ça aurait dû être marqué en gros, mais c'est une séance gratuite.
Oui.
On a été contacté par la cartoucherie de Valence, donc qui est un grand pôle de l'animation. Et effectivement, c'est une séance anniversaire avec un programme de 1h20. Deux courts-métrages, il y a 6 films, et donc c'est conseillé à partir de 9 ans. Et en fait, ce qui va être super, c'est qu'à l'issue de la projection de ces courts-métrages, il va y avoir un atelier sur le cinéma d'animation, toujours gratuit, et il faut juste s'inscrire. Alors, ce que j'ai compris, c'est que ça allait être un atelier donc, sur le film d'animation, mais à partir de Lego. Et donc, je pense à ton fils,
mais
Chloé.
Moi, j'y pense, mais les dates ne correspondent pas bien à... Attends, c'est laquelle semaine, en fait?
C'est la deuxième semaine. C'est le mercredi 15. Voilà, mais là, je vois que l'atelier de réalisation de Lego, c'est avant la projection. Il y a écrit de 14 à 16h, et à 16h30, il y a la séance.
Ah, autant pour moi. J'avais
c'est avant,
l'inverse.
C'est pas très grave.
C'est avant, donc 14h l'atelier, et 16h, 1h20 de court-métrage.
Ouais, je suis bien triste. On sera pas là, on sera loin, en vacances. Donc c'est bien dommage. Vraiment, je pense que ça va être hyper bien.
Ouais, mais bon, c'est cool les vacances aussi.
Ouais,
c'est cool. Oui,
mais
c'est vrai, normalement,
aller au
c'est
cinéma,
cool.
C'est sympa quand il fait chaud.
Oui.
C'est
pas fou.
Mais donc voilà, vous pouvez vous inscrire, enfin inscrire vos enfants auprès de nous. Je sais pas la jauge, mais à mon avis, ça doit pas être très grand parce qu'il faut quand même du matériel. Un peu spécial pour que l'atelier soit chouette. Donc, pressez-vous. Si vous avez des enfants de plus de 9 ans, tout est gratuit. L'atelier, puis la projection, ça va être un chouette moment. Voilà.
Voilà. Et donc, cette semaine, quelque chose à
t'as
dire
t'as vu un truc, toi, Chloé?
Bah non, rien du tout. Et voilà, Michel Leclerc, Les Caprices de l'enfant roi. Michel Leclerc, on le connaît pour Le Nom des gens. Enfin voilà, il est un grand auteur de comédie française, très bon. Puis là, il y a un casting quand même assez alléchant, donc je vous conseille ça. Puis, Ulysse de Laetitia Masson, j'en ai entendu parler. Vraiment, il paraît que c'est vraiment un très très bon film.
J'ai vu la bande-annonce, moi, et ça m'a pas mal plu aussi. Ouais, je trouvais ça beau et mignon, ça a l'air bien.
Ouais, c'est sur un enfant qui naît avec un porteur de handicap.
Même si je trouve que Élodie Boucher, du coup, elle a toujours un peu le même rôle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'elle joue un peu le même rôle dans chaque film.
Oh, je te trouve un petit peu injuste, c'est pas vraiment vrai.
Après, j'en ai peut-être pas vu autant que toi.
Ouais, mais... je me souviens d'elle dans Je verrai toujours vos visages, je me souviens d'elle dans Pupille. Oui, oui. En fait, elle bosse pas mal avec... elle a ses réels fétiches. En l'occurrence, Jeanne Herry. Mais après, non, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir... j'aurais aimé le voir avant cette émission pour pouvoir vous en parler. Pour plein de raisons, ça n'a pas été possible. Mais dans tous les cas, c'est très prometteur. Mmh. Très, très prometteur.
Après, et... moi, j'ai vu que la bande-annonce, hein, c'est pour ça. Peut-être que je suis dur. Hein, mais...
Ouais, mais on a hésité aussi à solliciter des gens pour organiser une soirée à l'issue du film. Et après, on s'est dit, bon, c'est l'été. Mmh. Bon, il y a moins de gens disponibles, donc on ne l'a pas programmé. Mais je pense que c'est un très bon film à penser aussi, quoi. Mmh. À briefer ensemble.
Ouais.
Donc allez le voir en famille avec vos amis.
Ouais. Ok. Et donc je passe à la troisième semaine.
Hein. Ouais.
Pour une fois, voilà, ça va être light. Donc la troisième et dernière semaine de ce programme, donc du 22 au 28 juillet, on aura My Summer with Irene, ou Irène, parce que c'est écrit avec un accent, de Carlo Cironi. On a En nous de Juliette Binoche, avec aussi Juliette Binoche à l'affiche. Enfin, elle joue dedans, si j'ai bien compris.
Ah oui, elle danse même.
Ouais. Voilà, elle
danse. Elle réalise ce film. Ouais.
Et ensuite, on a Jim Quinn.
Oui,
tu parlais tout à l'heure d'un film de Soderbergh avec des stripteaseurs, tout ça. J'ai l'impression que Jim Quinn, il y a un peu de ça aussi.
Alors, c'est pas très bien. Je crois qu'ils font du bodybuilding. Ah. Je crois que c'est ça.
Je me suis fait avoir encore une fois par la bande-annonce.
Il faut voir la bande-annonce. On n'a pas vu le film, mais ça a l'air d'être incroyable.
Et je suis content que Jean-Pierre l'ait mis en première couverture. C'est super. J'ai des potes qui l'ont vu et qui m'ont dit que c'était super. Donc j'ai hâte. Donc ouais, de Jim Quinn, de Marc Nguyen et Nicolas Attané. Film d'animation franco-belge. Voilà. Et
interdit au moins de 12, non?
Alors il y a écrit, oui, interdit au moins de 12. D'ailleurs, c'est la même chose pour Scary Movie. Là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et donc, pour finir, on a Des Mignons et des Monstres de Pierre Coffin et Patrick Delage. Donc c'est le studio Illumination, comme on en avait discuté un peu la dernière fois. Et alors, je ne sais pas si c'est Riz Amer ou Riz Amer, parce que ça me fait penser au nom de l'acteur Riz Ahmed, en fait. C'est pour ça que je me...
Mais il n'est pas dedans, d'ailleurs. Je pense qu'il était pané.
Ce que je vois aussi, et que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi il y a écrit Latli au lieu de Italie dans le nom du pays. Bon, bref.
Des coquillettes.
Je pensais que c'était encore un de ces jeux de mots, de petites formules, tu vois. Je sais pas, peut-être qu'il y a un rapport avec le film de mélanger les lettres, j'en sais rien. Je pense pas. Donc, Riz Amer de Giuseppe De Santis. Voilà, un film de 49 pour le Ciné-Club de Jean-Pierre.
Yeah. Il n'y a pas Chronique d'un été aussi cette semaine?
Si.
Ah oui, pour le Cinédi.
Moi, c'est le seul film dont je vais parler, il faut que tu le cites. Hein,
ah, pardon, c'est pas sur la même page. Oui, bien sûr, Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin, que nous avons perdu il y a un mois de ça,
ouais,
à peu près.
Oh bah là, mais quelle... Tu bosses
non, mais
bien,
Eddie
bosse. Tu bosses, hein.
Je bosse un peu plus, et en plus, bah, j'étais vraiment au courant, quoi.
C'est voilà. Fou.
Et il a même regardé La Pensée complexe.
Oh là oui, là, tout à l'heure.
Ouais. Et tu bosses trop, même.
Je bosse un peu trop. Ouais, là, ça y est. C'est pour ça que je fais plein d'erreurs depuis tout à l'heure. Donc oui, Chronique d'un été pour les inédits de Cinédi, le dimanche 26 juillet à 11h. Voilà. Bah, tu peux commencer par ça si tu veux. Hein.
Non, Chloé,
T'as
levé le doigt. Je t'en prie pour prendre la parole.
Je t'en prie. Non, mais parce que je disais, sur Chronique d'un été, mais t'allais le dire, j'imagine, on va bosser avec Ardiwa. Mm. Mais je t'en prie, rebondis, Chloé. Rebondis.
Eh bien, mais c'est vachement bien. Donc, alors, Chronique d'un été, c'est un film qui a été fait dans l'été 1960. C'est à l'initiative de Edgar Morin. Donc, tu viens de dire qu'il est mort cette année à 104 ans.
Mm.
Notable. Hein,
je pense.
Beau score. Quoi. Donc, sociologue, philosophe, hein, pas besoin de vous présenter Edgar Morin.
Résistant.
Et qui a proposé en fait à Jean Rouch, qui lui est un réalisateur très connu, notamment, enfin je ne veux pas dire qu'il est très connu, on n'est pas dans du Steven Spielberg, mais assez connu pour le cinéma direct et ses films ethno. En fait, sa grande spécialité à Jean Rouch, c'est d'aller filmer notamment les Dogons. Mais ça, on parle de ça dans les années 50, hein, donc voilà, c'était il y a fort longtemps. Donc Edgar Morin rencontre Jean et lui propose de faire un film sur comment vivent les gens, notamment les Parisiens, en 1960. Donc pour faire un petit peu, pour replacer historiquement, on est sur la fin de la guerre d'Algérie. En tout cas, sur le début de la fin. Mmh. En tout cas,
c'est 62.
Voilà, c'est très, très concret. Là, on est en train de... Tout le monde se pose cette grande question et c'est très présent. Et on est aussi sur les grands débuts aussi, les interrogations assez sociales, quelques années avant mai 68. Mais voilà, en fait, ils prennent la température de tous ces Parisiens qui les entourent, leurs amis et autres. Et ils leur posent une question, notamment « Comment vivez-vous et êtes-vous heureux ?» Et en fait, c'est un film manifeste qui, à la base, devait être un film un peu d'études sociologie et qui, en fait, est devenu du cinéma vérité. Voilà, c'est un film qui annonce exactement ce qui va se passer avec la nouvelle vague aussi derrière. Parce qu'ils ont libéré la technique, en fait. L'histoire du cinéma, c'est aussi une histoire de technique. Mmh. Et dans ces années-là, on avait des très grosses caméras blimpées, ça veut dire qu'ils faisaient énormément de bruit, on ne pouvait pas faire du son direct. Et en fait, grâce à quelques opérateurs qui étaient allés notamment au front, à la guerre ou autre, on a ramené des caméras super légères, qui sont les caméras 16, qu'on utilisait pour faire les informations. Et notamment aussi les Nagra pour faire de la prise de son en direct. Et tout ça a permis d'aller dans la rue et de filmer les gens dans la rue et de leur faire un peu des caméras trottoir comme on pourrait voir aujourd'hui de manière très béton. Mais à l'époque, c'était impossible à faire.
C'est un peu le premier micro-trottoir de l'histoire.
Exactement, c'est un peu un micro-trottoir et c'est un peu... une innovation inouïe dans l'histoire du cinéma qui a permis de faire ces fameux à bout de souffle, les séquences de Belmondo qui marchent sur les Champs-Élysées. Bah, c'est grâce à ces précurseurs et ces pionniers de la technique qu'on a pu avoir ce cinéma-là. Quoi. Donc tout ça, ça a été développé par, pas par Jean Rouch et Edgar Morin, mais ces gens qui ont bossé avec eux, qui sont Raoul Coutard et Michel Bruault. Qui sont des opérateurs. Et voilà. Et en fait, ça nous a plu de vouloir programmer ça avec Cinédi parce que donc c'était il y a maintenant 65 ans. Ouais, et on avait envie de bosser avec Ardiwa pour un peu reproduire ça. Êtes-vous heureux et comment vivez-vous? Et voilà, et c'est un peu manifeste. À l'époque, on se rendait compte qu'ils n'étaient pas vraiment très heureux, tous ces gens. Ben, on sortait quand même d'une guerre qui était quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est encore très présent dans le film, et d'une autre guerre qui était la guerre d'Algérie. Voilà.
Et puis là, ça fait un peu capsule temporelle, quoi.
Ah ouais,
c'est un peu un doigt sur le pouls de l'époque, de la vie à l'époque.
Et puis surtout, ce son direct, ça donne un cachet parce que.
En fait, il parle un peu comme ça, là. Il parle, voix radiophonique. Il y a une manière de s'exprimer.
Comme les archivinas, un peu, qu'on voit passer des fois. C'est assez fou la manière dont tout le monde s'exprime, que ce soit les jeunes, les vieux, les adultes. Enfin, c'est dingue.
Ouais, il y a des expressions. Ouais, je vous fais une petite. Je finis avec ça, mais il y a un des personnages qu'ils interviewent qui est donc un pote à eux. Et il n'arrête pas de dire « n'est-ce pas ?» C'est un tic de langage qu'on a un peu perdu de nos jours.
Ouais, qui est mort avec Jean-Marie Le Pen.
Peut-être. Ah, c'était ça, c'est lui qui a fait que le « n'est-ce pas » est devenu un truc. Bref, c'est
voilà. Mais ce film, j'ai trop hâte.
Voilà.
J'ai vraiment hâte, j'espère que vous serez nombreuses à venir le découvrir avec nous et que vous laisserez tenter par ce micro-trottoir qu'on organisera à l'issue de la séance avec Ardiwa. Donc... et que du coup on pourra faire écho avec les mêmes questions aujourd'hui que celles posées dans le film. Ce film est incroyable.
Très bonne idée.
N'est-ce pas? Tu viendras, Eddie?
Peut-être. Si je fais pas trop chaud. Si on n'est pas à notre cinquième vague de chaleur de l'été. Enfin, vague de chaleur.
Non, on parle pas. Merci. J'adore quand tu fais des petits points techniques.
Ouais,
on apprend plein de trucs. Merci, Chloé. Moi, je vais conclure, je crois, avec Jim Quinn, parce que c'est le dernier film dont il faut absolument qu'on vous parle. Donc, on l'a précisé, c'est interdit aux moins de 12 ans, parce que c'est vraiment une animation pour adultes, mais de très grande qualité. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est passé en séance de minuit à Cannes, et que les collègues étaient dithyrambiques. Enfin, le lendemain, ils étaient là, mais j'ai tellement hâte de montrer ça dans ma salle, que le public découvre ce film, il est génial. Comment ça s'appelle ? La boîte de prod qui est derrière Jim Quinn, c'est Bobby Pills, merci, qui est notamment derrière Pipoudou. Ça vous parle, Pipoudou ?
Pas du tout.
Non.
Qu'est-ce que c'est que Pipoudou ?
Moi, on m'en a parlé. C'est de l'animation très, 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 très adulte.
Ok.
Qui fait aussi une sorte de vulgarisation sur le plaisir sexuel en général. Et c'est très décalé, c'est très très drôle.
J'ai envie de voir
plus. Regardez, regardez un ou deux épisodes. Du coup, j'en ai revu un hier. Je me suis dit, mais c'est tellement what the fuck, j'adore. Bref, donc c'est Jim Quinn, extrêmement drôle, encore une fois. Très satirique, très politique. C'est incroyable d'un point de vue animation. Et il y a un bémol quand même que j'ai lu, qui est revenu quand même à pas mal qui est revenu plein de fois, quoi. C'est le manque de personnages féminins, notamment lesbiens. Il y en a une très montrée de manière très péjorative et une de manière très améliorative. Mais il n'y a pas déjà beaucoup de personnages féminins. Et en plus, beaucoup les ont trouvés assez caricaturaux. Mais, mis à part ce bémol, c'est un excellent film d'animation. J'aimerais vous citer une citation, du coup, un extrait d'une critique écrite par Mad Movies.
Ah non, c'est bon.
Je vous lis parce que c'est magnifique. L'œil est caressé par la profusion visuelle de chaque plan. Mm. L'oreille chatouillée par l'acidité des dialogues. Les zygomatiques secouées par une infinité de détails couillons et d'élan satirique porté à un délicieux paroxysme.
Mmh. Magnifique.
Je propose qu'on conclue.
Ah ouais. Non, en tout cas, moi, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit que ça avait l'air d'être absolument génial. Voilà.
Ouais, ouais, ouais.
Très hâte.
Beaucoup de demandes sur ce film, ouais. Beaucoup d'attentes et on va se marier.
Ah, je croyais qu'on allait dire on va se marier.
Ah non, on va se marier. Non, mais c'est surtout que ça a l'air d'être complètement à l'image de tout un tas de... Enfin, pas à l'image, mais ça a l'air de représenter toutes les communautés LGBT, enfin, oui. Surtout gays,
oui.
De tourner plein de choses un peu en ridicule, et ça a l'air trop bien écrit, en plus d'être magnifique, donc, enfin, sur le plan visuel. Donc, vraiment, allez voir Jim Quinn, je pense que c'est le film
à ne pas rater,
qui a aussi... pulvériser tous les scores, enfin pas les scores, mais bref, qui a fait énormément d'entrées dans le reste de la France où il est déjà sorti. Voilà.
Et je crois que c'est leur premier film en sortie d'école, les deux réalisateurs.
Ah oui.
Ouais. C'est leur premier long.
Stylé. Bravo. Longue vie à eux.
Ça a l'air d'être déjà bien maîtrisé, quoi.
Ouais, mais pensez aux lesbiennes la prochaine fois, les gars.
Bah, peut-être qu'ils feront une Jim Queen.
J'ai entendu
un prénom Jim féminin. King. Ouais, voilà, tu vois, prénom féminin King derrière. Ouais, comme ça, c'est un gars.
Jim King. Bah, j'ai entendu une critique qui disait, mais en fait, c'est totalement assumé le fait que ce soit très centré sur l'homme, en fait,
oui,
sur la masculinité, sur l'homosexualité masculine.
Oui, mais ils s'en défendent très bien, eux aussi. Ils disent, bah, nous, c'est de ça dont on avait envie de parler. Et c'est OK, enfin.
Ouais. Est-ce qu'ils ne parlent pas de leur vécu aussi, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas du tout si c'est.
Alors,
si leur
vécu,
quoi, mais...
quand même, le pitch, c'est une pilule qui rend les homos hétéros.
Oui, mais les questions.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr.
Les questions, voilà, donc.
Oui, c'est sûr.
Qui les concerne, quoi. Je sais pas. Je ne veux pas supposer. Hein, mais...
T'as une reco, Eddie ?
J'en ai deux. Je viens de décider, mais je vais en faire une vite. Enfin, en fait, les deux vont aller vite. Il y a un album et un film.
Vas-y.
Le film, c'est The Ship Detectives, dont je t'ai vite fait parler l'autre jour. Je sais pas si toi, t'en as entendu parler, Chloé.
C'est une histoire de mouton.
Alors, en français, il s'appelle Détective Privé. Parce que c'est un film avec des moutons qui mènent l'enquête à la place de la police, plus ou moins. Je veux pas en dire plus, parce que c'est vraiment un peu un... Enfin, c'est pas un film à plot twist ou pas, mais enfin, c'est quand même une enquête, donc il y a quelque part quelques petits plot twists, mais c'est surtout assez intéressant de se plonger dedans sans trop savoir un peu où est-ce que ça va aller, parce que ça va un peu dans tous les sens. Et c'est assez léger comme film, c'est pas du tout... Enfin, c'est léger dans le sens où ça va pas poser des grandes questions politiques ou sociales, mais c'est drôle et c'est touchant, et ça parle plus de l'humain et de la condition humaine, quoi. En vrai, et voilà, c'est un film anglais, donc il y a humour anglais, tout ça. Ça me fait un peu penser, alors pas dans
Shaun le mouton.
Alors j'ai pas vu, mais peut-être un peu, parce que voilà.
C'est génial, Shaun le mouton.
Mais oui, pareil. Non, moi là, j'allais dire que ça me fait plus penser à Edgar Wright et Hot Fuzz, parce que c'est plus un peu dans un petit village en Angleterre avec la police qui sait pas trop ce qu'elle fait et tout
et
ça.
Et pas à Babe, le cochon dans la ville.
Non, je l'ai pas vu non plus, mais
ah,
peut-être.
C'est
sûrement des liens qui sont très pertinents. Donc voilà, moi j'ai vu ça, j'en ai beaucoup entendu parler, et c'est vraiment très étonnant d'émotion et tout. Enfin, c'est trop bien. Voilà. Donc, je sais pas si. Je pense pas qu'il passera au Pestel, parce qu'à mon avis, sa date est déjà passée. Il est sorti en mai. Mais il va sûrement être dispo, ou alors il est sûrement déjà dispo sur certaines plateformes de streaming.
Il faut y réfléchir pour la prochaine fête de la transhumance. J'essaierai de le proposer.
Ah ouais, très bonne idée.
Ouais.
Bah, s'il est distribué, on peut en reparler.
Donc voilà, assez cool. Et l'album, vite fait, c'est l'album de Muse. Je t'en ai aussi parlé à l'instant quand on est arrivé. Je suis obligé d'en parler parce que ça fait des années que mon frère il me tanne pour que je lui donne des vinyles de Muse pour les passer à la radio quand il fait son émission lui ici à Erdiwa et donc je voulais en reparler parce que ben oui c'est un peu mon groupe préféré de tous les temps même s'ils m'ont beaucoup déçu sur les 10 dernières années ou presque sur
les trois ça fait longtemps sur... une grosse déception
ah, oui c'est trois albums un peu nuls d'affilée surtout deux mais un peu trois. Et du coup, ben là, je suis très content de pouvoir dire qu'ils sont de retour et que c'est très très bien. Donc l'album s'appelle The Wow Signal, donc qui fait référence au signal Wow qu'on a reçu un jour de l'espace et qu'on a baptisé Wow parce que le scientifique qui l'a détecté, enfin enregistré, on va dire, il a écrit Wow sur sa feuille à côté en mode « Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et c'est un signal qu'on a longtemps supposé être, provenir d'une intelligence autre que la nôtre. Sauf que, ben, pas vraiment. Enfin, voilà, comme beaucoup de choses qui viennent de l'espace, c'est un peu dur à identifier. Donc voilà, ça a juste un peu fasciné le chanteur du groupe pour l'album. Et ça lui fait poser plein de questions sur également la condition humaine, un peu sur l'IA, vite fait, sur Dieu, sur la religion et sur aussi l'amour. Parce que c'est peut-être l'album le plus personnel, je dirais, du chanteur. Il parle beaucoup de ses relations qui ont façonner sa vie sentimentale et tout.
On va écouter ça.
Ça parle un peu de divorce, du coup, quelque part, de rupture et tout. Voilà, je préviens. Mais c'est surtout un album très, très Muse, quoi, avec vraiment, enfin, des bons riffs de guitare, des bonnes lignes de basse et des bons drops et tout ça. Et donc, voilà, si vous aimez le rock, c'est bien. Si vous aimez un peu tout ce qui est très théâtral, un petit peu over the top, c'est parfait. De toute façon, voilà, Muse, c'est ça. Et surtout, c'est, comment dire, c'est touchant, quoi. Enfin, je sais pas, je suis enfin re-amoureux de Muse après 20 ans de bons et loyaux services. Voilà, je suis très content. Donc, j'étais obligé d'en parler.
Je vais partir chercher mes places pour la dernière de Radio Nova.
On sera diffusé d'ailleurs le même jour.
la concurrence.
Donc, quelques heures après cette émission que vous êtes en train d'écouter, il y aura Radio Nova à Chabestan, là, sur le stade de Chabestan. Donc, n'hésitez pas à y aller si vous pouvez encore y aller, mais je pense que les places vont partir là.
Oui, justement, on va y aller.
Allez.
Allez,
bisous,
bonne journée tout le monde, salut.
Et non, c'est pas la fin de l'émission parce que là je suis en train de finir le montage, on est lundi soir et je pouvais pas diffuser cet épisode sans passer un message de soutien, je pense au nom de toute l'équipe de Radio Pestel, donc de Chloé et moi, à tous les pompiers et à toutes les personnes qui aident de près ou de loin à combattre les incendies qui ravagent notre belle région et notre belle vallée d'Oise. Et surtout à toutes les personnes qui sont déjà touchées par les incendies et qui ont déjà dû évacuer leur logement. Voilà, c'est assez triste de voir autant de forêts partir en fumée et d'observer ça de loin ou de près pour certains et de ne pas pouvoir y faire quoi que ce soit, quoi. On n'a juste pas les moyens de combattre ce genre d'incendie. On en a plusieurs en France en même temps et ça complique énormément les choses. Et voilà. Moi, j'espère que tout va bien se passer. Je pense aussi à... je pense à Radio Nova qui ont dû évidemment annuler l'enregistrement en public de leur émission Adi. Ils vont quand même la diffuser, donc voilà, restez connectés. Ça arrivera bientôt, mais on pourra pas y assister. Et voilà, je sais qu'on est nombreux et nombreuses à attendre ça depuis plusieurs semaines. Donc c'est dommage, mais bon, des fois voilà, la nature nous impose des choix, et là le choix c'était d'annuler pour la sécurité de tous et toutes. Au revoir, re-bisous Erdiwa. On se retrouve du coup dans 3 semaines pour l'ultime édition de Radio Pestel pour cette saison avant les vacances. Et bon courage tout le monde.